Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Il est un peu plus de 11h sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Wagon Livre. À l'approche des commémorations de l'armistice de 1918, nous avons le plaisir de retrouver, je dis le retrouver parce qu'on a déjà eu le bonheur de l'avoir début mai dernier pour une émission qui était entièrement consacrée au bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon. Jean-Charles Gibault, bonjour.
Bonjour Yannick.
Cher Jean-Charles, merci une fois de plus d'être devant notre micro. On va bien évidemment parler de la Grande Guerre avec vous en cette fin de matinée sur Radion. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs qui vous êtes professeur d'histoire au collège à Avallon, mais également en Côte d'Or, à Semur en Auxois. Vous êtes aussi le scénariste d'une trilogie disponible en bande dessinée aux éditions Yill, trilogie qui a pour titre Wim Dicta et dont le dessinateur est votre grand ami Ilker Caliscan. Le tome 3 et dernier donc est sorti cette année au mois d'avril, me semble-t-il.
C'est cela, au printemps.
Et puis vous êtes sur un autre projet, toujours de bande dessinée à caractère historique, qui va conduire les gens du Morvan, mais pas que, les passionnés d'histoire sur le maquis. Camille, un tout petit mot
voilà,
sur ce futur travail.
Exactement Yannick, sur les traces de la résistance dans le Morvan, avec un personnage qui va entrer au cœur du maquis Camille, et qui va nous permettre de découvrir un petit peu le quotidien des maquisards à cette époque, sur un temps très court, mais finalement extrêmement rythmé.
Merci Jean-Charles pour ces précisions. Aujourd'hui, nous allons sur le terrain d'une autre guerre, celle qu'on appelle la Grande Guerre. Et nous avons retenu, grâce à vous Jean-Charles d'ailleurs, parce que vous m'avez soufflé une excellente thématique que vous illustrerez au cours de l'émission. Nous parlerons des animaux pendant la Grande Guerre, car ils ont été très présents en millions et de toutes catégories. On pense souvent aux chevaux, mais ça va aussi vers des animaux parfois totalement originaux de par leur présence dans des régiments. On aura l'occasion d'en parler au cours de cette émission. Nous parlerons aussi avec vous, Jean-Charles, des combats aériens et du développement de l'aviation militaire et d'évoquer les certains as dont nous connaissons bien les noms. Je pense à Georges Guynemer, parmi beaucoup d'autres, parce qu'ils sont très nombreux. Pour ouvrir cette émission, un petit mot, Jean-Charles Gibault, sur l'espionnage. J'allais dire l'espionnage de guerre qui voit un peu le jour au moment de cet terrible affrontement entre la France et l'Allemagne.
Alors les espions sont présents sur les champs de bataille depuis déjà de nombreux siècles. Déjà César possédait ses espions dans l'Antiquité, mais l'institutionnalisation de l'espionnage date vraiment de cette période, de cette guerre de 14-18. Notamment, alors je pense aux pionniers, ce sont les Britanniques, La création du MI6, très célèbre, date déjà de 1909, donc c'est quelque chose qui se développe au début du XXe siècle, et le premier conflit mondial va être l'occasion d'utiliser les espions, les espionnes, à un niveau très important. On parle d'ailleurs du renseignement plutôt que de l'espionnage à l'époque. Donc ce sont des troupes d'un genre nouveau qui sont loin du feu, qui sont loin des premières lignes, mais qui ont un rôle extrêmement important. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, le contre-espionnage français considère qu'il y a à peu près 2000 femmes qui travaillent pour les services allemands sur le sol français. Donc c'est quand même considérable et c'est une source de renseignements, c'est une source de désinformation aussi, d'écoute, de décryptage des messages radio, bien entendu. C'est tout un panel de renseignements, d'intelligence qui est mis en service des armées. Et évidemment, nous, Français, nous ne dérogeons pas à la règle avec des personnalités très célèbres dans le milieu de l'espionnage.
Alors c'est amusant d'ailleurs de considérer que ce sont les femmes qui sont des espionnes, ce côté un peu malin, perfide de l'espionne. Tout le monde a un peu l'image, j'allais dire d'Épinal, mais qui est une image authentique, historique de Mata Hari, qui sera arrêtée et fusillée.
Mata Hari, c'est un petit peu la légende en ce qui concerne l'espionnage, mais au niveau des résultats, je ne suis pas certain que ce soit véritablement la plus importante. Je pense plutôt à deux personnalités, notamment à Marthe Richer, c'est une prostituée de Paris. Alors, on recrute beaucoup dans le domaine des prostituées qui ont la capacité de faire parler assez facilement les messieurs
sur l'oreiller.
Voilà, exactement. C'est un peu, bon, c'est une image aussi, mais qui est très, très efficace pour l'espionnage. Elle va intégrer le deuxième bureau, c'est-à-dire le bureau de renseignement français, après la mort de son mari sur le front en 1914. Elle va donc être ce qu'on appelle un agent double à Madrid. Et elle va notamment fournir des précieux renseignements sur les mouvements de troupes au Maroc, ce qui lui donnera l'occasion d'être décorée de la Légion d'honneur en 1933. Donc elle fait partie vraiment des figures de cet espionnage. Je pense aussi à une personnalité assez célèbre qui s'appelle Miss Tinguette, qui est une chanteuse, actrice très célèbre, et qui va faire jouer ses relations, et qui va entrer au service du deuxième bureau pendant tout le conflit mondial, pour des raisons patriotiques évidemment. Elle a des relations, elle les met au service de la France, mais aussi plus personnelles, puisque son amant Maurice Chevalier est prisonnier des Allemands. Elle va jouer de ses relations pour le faire libérer. Donc des raisons patriotiques, mais aussi sentimentales. Chaque espion a ses propres raisons d'entrer au service de la France. Donc voilà pour Miss Tinguette, par exemple.
Merci Jean-Charles. On va marquer, si vous le voulez bien, une première pause musicale. Alors nous restons dans la thématique de notre émission consacrée, je le rappelle, à la Grande Guerre, et ce jusqu'à midi sur l'antenne de Radio. On écoute un titre de Tichot, L'heure idéale, et nous retrouvons notre invité Jean-Charles Gibault, professeur d'histoire, et nous parlerons des animaux dans la Grande Guerre. C'est au menu de notre wagon-livre. Nous revenons d'ici quelques minutes.
C'est là-bas dans la tranchée, la mort à tous les instants. C'est l'humanité fauchée, comme les fleurs du printemps. C'est ville et campagne en flammes, et malgré cela debout. Pour le salut de nos âmes, il faut aller jusqu'au bout. C'est la cueillaison brutale des rêves les plus ardents. C'est de la chair qui s'étale et des asticots dedans. C'est l'horreur dans la souffrance et malgré cela debout. Pour la grandeur de la France, il faut aller jusqu'au bout. C'est après la charge folle, vers les canons meurtriers, l'épouvante qui racole auprès d'un champ de laurier. C'est la liberté qui saigne, et malgré cela debout, pour qu'arrive enfin son règne, il faut aller jusqu'au bout. C'est la croix sur la poitrine du fabricant d'orphelins, qui dérobe à la colline les ailes de ses moulins. C'est bâillonner la justice et malgré cela debout. Pour que sa voix retentisse, il faut aller jusqu'au bout. C'est la gloire aux ailes blanches qui paraît à l'horizon, quand l'arbre n'a plus de branches et le gueux plus de maison. C'est le droit qu'on martyrise et malgré cela debout. Bâtir une église, il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi fallait-il se battre comme avant 89? La poule au pot d'Henri IV est encore dans son œuf. On meurt de l'attendre naître, et malgré cela debout. Pour celle aux œufs d'or du maître, il faut aller jusqu'au bout. Leur idéal, c'est l'immonde, arbitre de nos destins. L'affranchissement du monde, remis à d'autres matins. C'est dans les cœurs en déroute, le passé remis debout. Et c'est pour cela sans doute, qu'il faut aller jusqu'au bout.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Un wagon livre consacré à la Grande Guerre à quelques jours du 11 novembre avec un professeur d'histoire habitué de notre micro et je l'en remercie particulièrement. Et puisque je suis dans les remerciements, je voudrais aussi saluer et remercier Christiane et Dominique Barbe de l'hôtel Avalon-Vauban qui nous accueille très régulièrement rue de Paris à Avalon pour un grand nombre d'enregistrements de ces numéros de Wagon Livre diffusés sur l'antenne de Radion. Jean-Charles Gibault, les animaux dans la Grande Guerre, c'est vous qui m'avez soufflé cette thématique au moment où je vous ai contacté pour revenir devant le micro. C'est tout à fait passionnant parce que, bien sûr, on connaît tous l'affreux bilan humain de cette Grande Guerre, mais des animaux ont combattu, des animaux ont souffert et des animaux ont aussi été sacrifiés durant ce conflit.
Exactement, la mobilisation générale touche évidemment les soldats, les civils, mais aussi les animaux, la guerre totale dans tous les sens du terme, puisqu'elle touche la société dans son ensemble et les animaux, qui sont les oubliés un petit peu de la Grande Guerre, qui sont les oubliés de ce massacre généralisé. Et ils ont payé un lourd tribut, tout comme les humains, lors de cette guerre.
Alors, justement, avant de développer et puis de partir à la découverte de ces différentes catégories d'animaux et d'animaux stars, parce qu'il y a eu des héros animaux de la Grande Guerre, vous nous en parlerez, Jean-Charles. Je voudrais juste qu'on écoute, c'est un extrait d'un numéro de Wagon Livre qui a été diffusé en juin 2014. C'est un historien qui s'appelle Damien Baldin qui a travaillé aussi sur l'histoire des animaux dans la société française. Et justement, dans l'extrait que vous allez entendre et qui est relativement court, il évoque les réquisitions des chevaux au début de la Grande Guerre. Damien Baldin.
800 000 chevaux sont immédiatement réquisitionnés par l'armée française entre le 1er août entre le 2 août officiellement et le 31 août. Ces 800 000 chevaux, ça fait un ratio presque de un cheval pour 4 hommes. Donc c'est quand même extrêmement... Il y a une présence extrêmement dense des chevaux. Et alors, pourquoi ces chevaux ? 100 000 à peu près servent à la cavalerie, parce qu'il y a encore 100 000 cavaliers dans l'armée française en 1914, et les autres servent à la traction des voitures, de ravitaillement essentiellement, mais surtout la traction des canons. Puisque même encore en 1918, il faut savoir que 85% de l'artillerie est encore tirée par des chevaux. Et ça, c'est assez incroyable. Pourquoi ? Parce que l'automobile est déjà connue, le camion aussi. Mais sur des... Alors sur les longues distances, il y a le train. Hein, depuis le milieu du 19e siècle, le train a remplacé les chevaux. Mais sur les courtes distances, le cheval reste le moteur de la société du 19e siècle. Et sur les courtes distances, jusqu'à donc au développement de la voiture, mais la voiture est encore très peu développée avant 1914, c'est le cheval qui est l'automobile d'aujourd'hui. Et encore plus, sur un champ de bataille où vous n'avez pas de route, mais encore moins des routes goudronnées, et que donc, entre l'échelon, si vous voulez, les hommes, les canons sont amenés par train à quelques dizaines de kilomètres du front, mais après, pour faire le trajet de la gare jusqu'à la zone des opérations, le seul moyen de pouvoir tirer et de rendre mobile des canons sur des terrains extrêmement compliqués, ce sont les chevaux.
Alors Jean-Charles Gibault, effectivement, comme Damien Baldin le dit dans cet extrait, les chevaux sont, j'allais dire, en première ligne dès le début et extrêmement utiles à l'armée française.
Les chevaux sont utilisés déjà depuis de nombreux siècles dans les différentes armées du monde, mais il est vrai qu'au cours de cette Première Guerre mondiale, leur utilisation est très importante. On estime à 11 millions d'équidés l'utilisation de tous les belligérants vont utiliser 11 millions d'équidés pendant le conflit. C'est gigantesque. On a une pénurie de chevaux. On sera obligé d'aller réquisitionner des chevaux en Amérique du Sud, notamment en Argentine. Ils vont traverser l'Atlantique pour revenir en Europe sur les différents champs de bataille. Et donc, ils sont très présents. Ils sont évoqués aussi à travers les témoignages, des lettres, mais aussi les auteurs, notamment Maurice Genevoix. Je pense à ces descriptions extrêmement touchantes de la souffrance des chevaux d'artillerie qui sont obligés de tirer des canons extrêmement lourds pour le combat. Donc c'est vraiment, leur présence est omniprésente et quotidienne sur le front.
Il faut dire aussi que le cheval est un animal très présent dans la société rurale. Et là aussi, ça, les réquisitions ont enlevé cette puissance de traction qu'était le cheval. Et le monde rural et paysan s'est retrouvé sans cet animal dont l'utilité était incontournable.
Indispensable, incontournable, vous avez raison. Et alors, c'est intéressant d'autant plus qu'on a toujours l'image de la Première Guerre mondiale comme une guerre moderne, une guerre motorisée. C'est une réalité, évidemment. Les chars, les avions, on parlera tout à l'heure, sont très présents. Mais l'animal est, au début du XXe siècle, indispensable encore, que ce soit dans la vie rurale et paysanne, et bien entendu, sur le champ de bataille également.
Alors, ils servent aussi dans la cavalerie, parce qu'il y a, encore 100 000 chevaux au début de 1914 dans la cavalerie française. Et puis, nous l'avons dit, Jean-Charles, ils servent à tirer les canons, quoi. Ces pauvres chevaux, bon, qui sont robustes, certes, mais qui sont soumis à la peur, à l'angoisse, au bruit. Ça a été aussi un enfer pour ces bêtes.
C'est certain. D'ailleurs, vous parlez des cavaliers, ils vont très très vite délaisser leur monture, puisque à partir du moment où la guerre de mouvement s'interrompt, les tranchées vont être creusées, et donc l'utilité de la cavalerie est quasiment nulle. Donc il va falloir leur trouver une autre utilité. C'est la raison pour laquelle ils vont être utilisés notamment pour le transport de troupes, transport de blessés et tirer les fameux canons d'artillerie.
Quand vous parler de la cavalerie, Jean-Charles, j'ai ces images d'archives, mais alors là, à la Seconde Guerre mondiale, de la cavalerie polonaise face à la puissante armée de chars allemande, c'est là que la vaillante armée polonaise, il y avait vraiment deux mondes, deux conceptions, j'allais dire conception un petit peu presque médiévale de la guerre à cheval, qui a perduré jusqu'à Napoléon et au-delà, et puis une armée hyper moderne, cette armée allemande qui a terrassé la France. Mais c'est une autre guerre.
C'est ça, une autre guerre, mais les Allemands, notamment la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale, a utilisé énormément aussi d'animaux lors de la campagne de Russie. C'était indispensable aussi pour le ravitaillement et pour avancer très très vite dans cette Seconde Guerre mondiale, mais c'est un autre conflit bien
et,
sûr.
Et l'armée rouge au moment de la Seconde Guerre mondiale disposait, selon Damien Baldin, même s'il considère que c'est très difficile à évaluer, mais il considère que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée rouge disposait de environ 3 millions de chevaux.
C'est un chiffre qui me paraît assez réaliste, hein, parce que c'est l'ampleur du conflit qui va avec le... On est dans une guerre démesurée, donc ce n'est pas anormal d'avoir des chiffres aussi énormes.
Alors vous l'avez dit, Jean-Charles, 14 millions d'animaux enrôlés dans le conflit, donc des chevaux, il y a des mulets, il y a des bœufs, il y a des petits ânes aussi.
Oui, alors notamment les mulets et les ânes ont une utilité pour les troupes qui sévissent dans les zones montagneuses. Hein, je pense aux Alpini italiens, aux Alpenkorps allemands, donc ce sont pour tracter les canons de montagne notamment, on a besoin de cette ressource en mulet et en âne. Et il y a un animal aussi qui va faire son entrée dans le bestiaire militaire depuis très récemment, c'est le chien, hein, qui va, au fur et à mesure que la guerre s'enlise et que les tranchées se creusent, les chevaux sont même trop grands et donc on a besoin d'un animal qui va remplacer aussi le cheval à ce moment-là, c'est le chien. Et le chien va être une utilité très très importante.
Alors bien sûr, le chien apporte aussi un petit peu de réconfort aux soldats, mais comme vous l'avez dit, et d'ailleurs on a toujours des chiens dans l'armée comme dans la police nationale ou la gendarmerie, hein, les chiens, c'est vrai qu'il y a des chiens policiers, il n'y a pas de chat policier. Je crois que c'est Jean Cocteau qui faisait cette petite plaisanterie. Mais pour revenir au chien, effectivement, il y a le chien infirmier, il y a le chien, bien sûr, de par l'odorat et de par la finesse de l'ouïe, qui peut énormément prévenir les soldats contre une
exactement,
attaque.
Exactement, le chien se décline sur de nombreux terrains terres militaires. Il est, comme vous l'avez dit, le chien sentinelle qui est présent en première ligne, notamment la nuit, puisqu'il est capable de ressentir, d'utiliser tous ses sens pour ressentir s'il y a du danger. Il y a le chien sanitaire qui va partir avec les infirmiers pour la recherche des blessés. Il y a le chien ratier également. C'est un chien qui va être très très utile pour lutter contre le fameux nuisible, le rat qui est omniprésent et qui dérange considérablement la vie du poilu. Donc le chien ratier a un rôle très particulier et indispensable. On a aussi le chien estafette qui va transmettre des messages entre la première ligne et les lignes arrière. Et donc c'est le chien est indispensable. On considère qu'il y a à peu près 100 000 chiens qui ont été utilisés pendant le premier conflit mondial. Alors ce sont des chiffres qui sont aléatoires puisqu'il est très difficile de comptabiliser. Ce ne sont pas des êtres humains, donc on n'avait pas forcément la nécessité de les compter comme ça, mais ils sont très très importants et très nombreux.
Dans l'utilisation des chiens, alors cette fois-ci, c'est durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands n'ont pas hésité à envoyer des chiens sous des chars, des chiens qui disposaient à leur corps, fixés sur leur corps, des charges explosives. Alors effectivement, ça peut scandaliser les amoureux des animaux que nous sommes, mais la guerre est la guerre et tous les moyens sont bons pour la gagner.
On parle de chair à canon pour les hommes aussi, utilisée de façon un petit peu scandaleuse dans certaines batailles perdues d'avance. Donc malheureusement, l'être humain ne fait pas de différence entre l'homme et l'animal dans le sacrifice. Avec cet exemple-là, vous nous donnez la preuve.
C'est Jean-Charles Gibault, professeur d'histoire, qui nous accompagne aujourd'hui dans ce wagon-livre que nous faisons d'ailleurs presque chaque année. C'est la troisième année.
C'est un rendez-vous voilà, qui devient habituel,
pour ne
annuel.
Pas oublier, je crois qu'il ne faut pas oublier ces guerres. Je parle à un professeur d'histoire qui enseigne, entre autres, les guerres. Les guerres font partie de l'histoire de l'humanité. Mais est-ce que ce souvenir est très présent dans l'esprit de vos jeunes élèves qui sont des jeunes gens entre 12 et 15 ans?
Alors, notamment, il y a eu le fameux centenaire, là, les 4 années du centenaire de la Grande Guerre qui ont permis de remettre un petit peu au goût du jour cette première guerre mondiale, cette fameuse guerre des Der, avec des thématiques nouvelles qui ont été mises en avant, et notamment celle des animaux. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est d'évoquer cette première guerre mondiale à travers un œil neuf et à travers des thématiques un petit peu comment pourrais-je dire,
moins académiques,
mais qui aussi sont très très importantes. Il faut pas oublier non plus le rôle de ces animaux, le rôle de ces aviateurs. Tout cela contribue à, je pense, mettre en lumière une page de notre histoire qui mérite d'être mise en première page.
Concernant la mémoire et la reconnaissance des armées aux animaux, par exemple, j'ai noté que la ville de Londres a honoré la mémoire des animaux en construisant le Animal in War Memorial en 2004. Et je crois que le conseil de la ville de Paris envisageait aussi qu'il y ait un monument marquant qui reconnaisse le rôle et le sacrifice des animaux durant la Première Guerre mondiale.
Oui, la cause animale est de plus en plus défendue aussi. Hein, donc évidemment, dans la société actuelle, quelque chose de très important. Mais les Britanniques ont toujours été un petit peu avant-gardistes dans ce domaine-là, puisque dès 1920, ils ont fait construire un monument dans la Somme, un lieu très important pour eux, des batailles très importantes de la Première Guerre mondiale, où ils rendaient hommage justement aux animaux avec une sculpture mettant en avant un cheval et un soldat. Donc c'est quelque chose qui date de 1920 et qui se développe aussi aujourd'hui.
Je rappelle qu'en France, il y a eu 8 millions de mobilisés, 1 400 000 morts, soit 34 morts pour 1000 habitants, 1 million d'invalides, 300 000 mutilés, 600 000 veuves, 700 000 orphelins recensés en 1919, 400 000 immeubles et usines détruits, 3 millions d'hectares de terres agricoles impropres à toute production en raison des bombardements. Et si je parle des destructions, c'est parce que la pause musicale que nous allons vous proposer a pour titre « La prière des ruines ». C'est toujours extrait de l'album « Une vie de bonhomme » de Tichot. Et nous retrouvons Jean-Charles Gibault juste après cette virgule musicale.
Comme par un miracle, en ce désert sauvage, un calvaire est resté debout. Le Christ, au front penché, plein de pitié, regarde. Le chaos triste est dévasté. On dirait qu'obstiné, le Rédempteur s'attarde à prêcher la fraternité, la prière des ruines, nous dit au fond des nuits, par cette voix divine, frères, soyez unis, tout est noir et stérile, où le bonheur vivait. Âme de mon évangile, homme, qu'avez-vous fait? À chaque printemps qui fleurit la nature, les ruines ont des nids d'oiseaux. Si t'es-tu vas renaître et penser tes blessures, regardant vers des temps nouveaux. Bientôt tous ceux qui chantent et tous ceux qui travaillent entre tes murs va revenir. Et déjà monte au bruit de la vie qui tressaille l'hymne d'espoir et d'avenir. La prière des ruines nous dit dans le soleil, les lointains s'illuminent, demain c'est le réveil, c'est la joie qui va suivre la fin des jours mauvais. Les hommes veulent vivre et travailler en paix.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Juste avant la pause musicale, je donnais une série de chiffres absolument catastrophiques sur le bilan de cette grande guerre et j'ai donné des chiffres qui avaient un lien avec la France, mais n'oublions pas, cette guerre est mondiale, les victimes sont de tout, de toute nationalité et de tous les pays, hein, venus d'Afrique, ou de l'Amérique, ou du Canada, ou de l'Australie, enfin vraiment de partout. Dans Lyon, on dénombrera un peu plus de 10 000 morts, soit 3,3% de la population iconaise. L'arrondissement le plus touché étant celui d'Auxerre avec 3500 morts, suivi par celui de Joigny. Et puis, j'en arrête après avec les chiffres, mais je pense quand même qu'on ne peut pas faire abstraction du bilan humain de ce qui devait être la der des der. Sur 70 millions d'hommes ayant porté l'uniforme durant 4 ans, près de 10 millions sont morts, 30 à 40 millions de blessés, 900 Français et 1300 Allemands en moyenne sont morts chaque jour entre 1914 et 1918. Jean-Charles Gibault est avec nous pour ce wagon livre. Jean-Charles, nous parlions des animaux dans la Grande Guerre. On a parlé des chevaux, des mulets, des ânes, des chiens. Et puis il y a alors d'autres catégories d'animaux, fort utiles d'ailleurs pour les combattants des deux côtés, hein.
Oui, alors vous parliez d'une guerre mondiale. Alors évidemment, les animaux aussi correspondent à cette guerre mondiale. On a par exemple au Proche-Orient, au Moyen-Orient, des combats assez violents. On utilise bien entendu les animaux les plus adaptés à ce terrain, c'est-à-dire les dromadaires, par exemple. Et ça nous fait penser à Laurence d'Arabie, bien entendu, qui a rendu célèbre cette utilisation d'une cavalerie particulière. Mais voilà, il ne faut pas oublier que les terrains se trouvent sur le monde entier, donc on utilise les ressources animales que l'on a sous la main donc, et qui sont les mieux adaptées au champ de bataille en question.
Alors Jean-Charles Gibault, je suppose que si nous allions nous promener dans la rue et que nous demandions à des badauds sur les trottoirs animaux de la Grande Guerre, je pense que seraient mentionnés les fameux pigeons voyageurs.
Ah, les pigeons voyageurs, bien entendu. Alors, le téléphone existe, évidemment, pendant cette Première Guerre mondiale. Je pense à ce fil du téléphone très ténu qui se trouvait sur les lignes de front. Malheureusement, après chaque bombardement, le téléphone était, bien entendu, inutile, inutilisable et inutile. Donc, on réutilise, bien sûr, le fameux pigeon qui va transmettre les messages entre les lignes de front et qui va rendre des services majeurs pour notamment les troupes disposées entre les différents fronts.
Alors, parle-t-on maintenant d'un des plus célèbres pigeons combattants, presque ?
Ah, le héros, évidemment, le pigeon de Fort de Vaux, le fameux Vaillant, je pense que c'est lui dont vous parlez.
Absolument. Alors, Jean-Charles, un petit mot peut-être sur
Vaillant.
Bien sûr,
Vaillant, c'est le dernier pigeon qui reste au commandant Reynal, qui se trouve assiégé dans le fort de Vaux, donc pendant cette fameuse bataille de Verdun. On est en 1916, donc c'est la bataille symbolique franco-allemande de l'époque. Il ne lui reste plus qu'un pigeon pour transmettre un appel au secours, un SOS. Il a besoin de renfort, il a besoin d'être libéré, et donc Vaillant va remplir sa mission. Il va transmettre le fameux message, même si, bien entendu, ça ne sauvera pas le commandant Reynal, mais il est resté dans la mémoire collective comme l'un des héros de cette bataille. Et donc, il a transmis ce message. Il a été décoré aussi, hein, bien entendu, pour avoir rempli cette mission. Mais à travers Vaillant, on peut imaginer toutes ces centaines de milliers de pigeons. On parle de 200 000 pigeons utilisés pendant le conflit. Et ils sont tellement importants que les Allemands vont utiliser aussi des rapaces pour essayer de les détruire et d'empêcher qu'ils transmettent leur message. Donc, on parle notamment des faucons allemands qui vont essayer de piéger les pigeons français et alliés qui transmettront les messages.
En tout cas, la reconnaissance de la nation à l'égard d'un pigeon à qui on décerne une médaille militaire montre bien l'estime et la reconnaissance de l'armée et de la population tout entière à l'égard d'animaux qui finalement ont commis des exploits comme certains humains. C'est absolument... aujourd'hui, ça pourrait prêter un peu à sourire parce que la guerre aujourd'hui, elle est très... très, très matériel, très, très mécanique, très technologique, mais c'est très émouvant. Et il semblerait, Jean-Charles, d'après les informations que j'ai eues entre les mains, que ce pigeon voyageur Vaillant ait été naturalisé et séjourne dans un musée actuellement en France.
Oui, c'est les renseignements que l'on a. Après, c'est vrai que ces animaux, notamment ce pigeon, il a la vie presque d'un régiment entier. S'il réussit sa mission, il peut peut-être, on imagine, sauver peut-être un régiment entier. C'est le cas de nombreux messages. S'ils sont transmis en temps et en heure, peut-être sauveront-ils d'une artillerie, peut-être sauveront-ils d'un assaut. Donc c'est vrai que les soldats sont aussi reconnaissants envers ces animaux qui peut-être vont les sauver aussi.
Alors, on a parlé des chevaux, ça a été la première catégorie d'animaux dont vous nous avez parlé, Jean-Charles. Il y en a un qui a inspiré un écrivain et un réalisateur de cinéma, je pense, au cheval Warrior. Donc.
Oui, alors cheval de guerre hein, qui a inspiré le cinéaste très célèbre, qui s'intéresse beaucoup aux conflits mondiaux. Il a fait évidemment un film sur la Seconde Guerre mondiale, le soldat Ryan, et il a fait le Cheval de guerre, donc un film qui met en avant ces chevaux utilisés en grand nombre dans les tranchées et qui vont, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir un rôle considérable. Et c'est intéressant de voir comment ils sont dressés aussi pour être, vous l'aviez dit, supporter l'insupportable, c'est-à-dire le bruit, les odeurs de poudre, etc.
Les chevaux, les maladies
sont,
aussi.
Voilà,
hein,
ce n'est pas leur quotidien. Il faut les préparer, évidemment, à supporter l'insupportable.
Et puis la boue aussi, des certains chevaux qui ont été abandonnés, enlisés dans la boue. Ce que Genevoix dénonçait avec beaucoup d'émotion. Effectivement, la guerre a été particulièrement cruelle pour les animaux. Le roman qui a inspiré Spielberg, donc le roman a pour titre Cheval de guerre, comme le film, mais le roman est de Michael Morpurgo et on le trouve en collection Folio Jeunesse. Alors, je renvoie nos auditrices et auditeurs au site yannickpetit.fr sur lequel se trouvera en podcast notre émission où là je mentionne un très grand nombre d'ouvrages sur justement ces héros oubliés que sont les animaux dans la Grande Guerre. Il y a quelques références de livres, je les mentionne pas tous au micro parce que le temps passe très vite et puis que nous avons encore beaucoup j'allais dire, beaucoup à exploiter dans le bestiaire,
Jean-Charles. Les animaux mascottes, les animaux stars, oui. Bien sûr.
Alors, les animaux stars, Jean-Charles, finalement, parlez-nous-en, ça, c'est passionnant.
Oui, alors, ils sont très nombreux et surtout, ils sont très variés en fonction des espèces et aussi en fonction des régiments qui interviennent. Alors, on a parlé des chiens, je pense à Stubby, le fameux sergent Stubby, puisqu'il va être honoré du grade de sergent. C'est un terrier américain qui va donc dans l'armée américaine se faire connaître pour de nombreux exploits. Il va participer à plus d'une dizaine de batailles, il va être honoré, décoré. Il va avertir ses camarades presque soldats d'attaques de gaz notamment. Donc il va sauver la vie d'un certain nombre de soldats. Et il va réussir à démasquer même un espion allemand qu'il va mordre, et ce qui lui vaudra d'ailleurs ce titre de sergent, il va réussir à le démasquer. Donc, on parlait de l'espionnage tout à l'heure, vous voyez, on y revient. Et c'est un chien, Stubby, qui va le découvrir au milieu de ses troupes américaines. Peut-être un accent, peut-être a-t-il été trahi par son accent, je ne sais pas. Mais en tout cas, le chien l'a deviné, contrairement aux soldats. Et il va rencontrer le général Pershing quand même, ce qui n'est pas rien. Il va être aussi honoré par le président Wilson. Donc, c'était quelqu'un, c'est une personnalité quand même, la plus haute personnalité des États-Unis qui va rencontrer ce chien qui donc va laisser une grande mémoire parmi les animaux stars de cette Première Guerre mondiale.
Et qui lui donc, survivant, retourne aux États-Unis. Il est mort en 1926 aux côtés de son maître, hein, John Conroy. Et alors, Jean-Charles Gibault, son nom figure sur le monument dédié aux héros de la guerre à Kansas City et sa dépouille, naturalisé une fois de plus, est exposé au Smithsonian Institution à Washington. Pardon pour l'accent, j'ai fait de mon mieux.
Non, mais vraiment, vous voyez, ils ont marqué, certains ont vraiment marqué la mémoire des soldats et des troupes. Stubby a aussi été honoré par des femmes françaises à Château-Thierry lorsque les Américains sont entrés en juin 1918. Les femmes ont confectionné un manteau pour Stubby qu'il va porter jusqu'à sa mort d'ailleurs, où il pourra arborer ses magnifiques médailles qu'il a gagnées de haute lutte pendant le conflit.
Alors, dans toutes les armées, hein, je suppose que les soldats allemands avaient leur mascotte, ont eux aussi bien évidemment utilisé les animaux. Il y a un animal assez original utilisé par les régiments russes avant qu'ils n'arrêtent la guerre pour faire leur révolution bolchevique. Mais
alors, il s'agit de Mishka. Alors, ce n'est pas un chien. Mishka, c'est un ours qui va être présent en Champagne en 1917 avec le corps expéditionnaire russe, vous l'avez dit, présent en France. Et il va être en première ligne. Hein. Il va participer aussi. Alors, peut-être va-t-il galvaniser, je ne sais pas, les troupes, mais il va échapper à une attaque au gaz, il va avoir la présence d'esprit de creuser un trou pour abriter son museau et survivre à l'attaque au gaz, donc c'est quand même, ce n'est pas rien. Et bien entendu, il va être parmi les troupes. Et pour aussi évoquer ce qu'on disait tout à l'heure, il va avoir la chance, Mishka, cet ours, d'avoir pour marraine de guerre la fameuse Mistinguette. Donc on revient encore une fois au personnage qu'on a évoqué tout à l'heure.
Alors, il ne retournera jamais en Russie, hein, mais à la fin de la guerre, il est placé au jardin d'acclimatation à Paris, où il terminera paisiblement sa vie en 1933. Voilà, le repos du guerrier. Alors, il y a aussi, on a parlé de mascotte, bon, il y a l'animal utile, utilisé, il y a l'animal aussi mascotte, il y en a pas mal aussi chez les aviateurs, qu'on va évoquer après la pause musicale. D'autres éléments sur les animaux, Jean-Charles ?
Bon, alors, pour rester dans l'animal mascotte, on a, avec un sort un peu plus tragique, puisque c'est un animal qui ne survivra pas. C'est Nancy, la fameuse antilope springbok des 4e régiment sud-africain, qui sera malheureusement victime d'une pneumonie, hein, le climat n'étant pas forcément en France le même qu'en Afrique du Sud. Donc vous voyez, il y a aussi des animaux qui ne survivent pas, même si ce sont des mascottes très appréciées, donc bien entendu. Et évidemment, on pense à Whisky et Soda, deux petits lionceaux, on se demande ce qu'ils font là, mais ils vont être les mascottes choisies par les aviateurs de l'escadrille Lafayette, et ils vont donc représenter ces aviateurs. Malheureusement, ils vont tellement perturber les équipages qu'on sera obligé de s'en séparer assez rapidement quand même.
Un grand merci Jean-Charles pour ce chapitre sur les animaux dans la Grande Guerre. Il est vrai aussi quand même que, une fois la guerre terminée, beaucoup de rescapés ont aussi dû être abattus en raison de leurs blessures, de leur grand âge, ou simplement parce qu'on ne leur trouvait plus d'utilité, ce qui déjà aussi à l'époque avait généré
choqué,
un peu
bien
de
sûr.
Scandale. Hein, déjà.
Vous avez raison Yannick, d'ailleurs certains chiens ne pourront jamais se réacclimater à une vie civile classique, c'est le cas d'ailleurs de certains poilus aussi, on serait obligé de les euthanasier, ils sont trop agressifs pour être remis à des propriétaires, à des maîtres, donc c'est assez triste de voir que ces chiens ont subi une euthanasie comme cela après la guerre.
Je pense toujours à ce témoignage très ancien, j'étais adolescent, l'avoir entendu sur France Culture, c'était une émission consacrée aux poilus, et je me rappelle d'un historien qui disait que certains poilus étaient devenus fous après l'armistice parce qu'ils ne supportaient plus le silence, tellement ils étaient habitués au bruit, au tumulte, l'horreur auditive des bombardements. Nous, pas d'horreur auditive, quelque chose de doux et agréable dans ce wagon-livre en compagnie de notre professeur d'histoire préféré, Jean-Charles
Chibault. Merci Yannick.
Eh bien, on va parler... Alors, c'est une chanson qui renvoie aussi aux conditions de vie du poilu. Il faut se nourrir sur le front. On écoute La Roulante, toujours extrait de l'album de Tichot. Nous nous retrouvons d'ici quelques minutes, un spécial Grande Guerre en cette fin de matinée sur Radion. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité.
Les nouveaux riches, l'inche paillard, les profiteurs, ils ont un quart, mais le poilu, lui, se sustente à la roulante. Y a le peuple, lundi, le mardi, et les autres jours, ben, y en a aussi, et ça recommence la semaine suivante à la roulante. Quand elle passe dans un patelin, les vaches la prenant pour un train font un sourire d'un mètre cinquante à la roulante. Souvent il vient des députés qui demandent aux poilus épatés, la pitance est-elle insuffisante à la roulante. Et les poilus d'un air moqueur, ils leur répondent la bouche en cœur, oh monsieur, elle est épatante à la roulante. Les types s'en vont sur leur auto et on imprime dans les journaux, ils ont tous une vie épatante à la roulante. Eh ben, y a du vrai dans ce bobard, mais ce qui leur donne cet air flambard, ce n'est pas le menu qu'on leur présente à la roulante. C'est une chose, un je ne sais quoi, qu'on sent flotter autour de soi, dans la vapeur qui monte et chante à la roulante. C'est le souvenir de l'Argonne et de Verdun, l'idée enfin qu'on est quelqu'un, comme qui dirait de la gloire vivante à la roulante.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Dernière partie de notre Wagon Livre ce matin sur Radion avec Jean-Charles Gibault, professeur d'histoire à Avallon et à Semur en Auxois. Jean-Charles, autre aspect de la guerre que vous m'avez suggéré, c'est le développement de l'aviation de guerre. C'est l'épopée des as qui se battent dans le ciel. Et ça, c'est magnifique. Je vous laisse nous en parler, Jean-Charles, s'il vous plaît.
Alors, si vous le permettez, Yannick, j'aurais commencé par une phrase d'un grand général, général Foch, qui n'est quand même pas n'importe qui pour la Première Guerre mondiale, qui, juste avant le conflit, aura cette formule. Il va dire « L'aviation, c'est du sport. Pour l'armée, c'est zéro. » Donc, pas un grand visionnaire, visiblement, à ce niveau-là. Mais il va très vite changer d'avis parce que, tout comme ses généraux et officiers, il va se rendre compte que l'aviation, d'abord, au tout début, va servir plutôt dans un rôle d'observation. Observer peut-être les mouvements de troupes adverses, observer, évidemment, ce qui se passe sur le front et, bien sûr, réglage de l'artillerie. Donc ça, c'est la première chose. Et on va se rendre compte que lors des combats aussi, ils ont, les aviateurs, un rôle très important. Donc l'aviation va aussi progresser au fil de la guerre et va avoir un rôle totalement déterminant. Et son rôle va changer aussi au fil des années. On pensait à une guerre courte, évidemment, la guerre va durer 4 ans et donc les aviateurs vont être de plus en plus sollicités. Je crois, Yannick, d'ailleurs, que vous avez une archive sonore à nous faire écouter à ce propos.
Tout à fait, Jean-Charles. Nous allons entendre Jean Roumains, qui a été aviateur et qui explique justement, essaie d'expliquer les difficultés de ces militaires à bord de leurs avions. Je vous propose effectivement d'écouter ce témoignage de Jean Roumains.
Ne croyez pas, parce qu'on passe au-dessus de vous, qu'on voit tout ce qui se passe. On ne voit absolument rien. Il est très rare que nous voyions des Boches dans leurs tranchées. On passe trop vite. Vous êtes, vous, fantassins, souvent mitraillés par des avions Boches qui enfilent une tranchée et tirent des coups de mitrailleuse. Ben, est-ce que vous connaissez des gens qui aient été touchés? Est-ce qu'il y en a eu auprès de vous? Non. Eh bien, quand on nous demande d'aller mitrailler les tranchées Boches, nous y allons avec la certitude que c'est inutile, parce que quand on tire 3 ou 4 balles sur 100 mètres de tranchée, la possibilité d'atteindre quelqu'un qu'on ne voit pas, on tire absolument au jugé, c'est absolument inutile. Et alors, nous risquons vraiment de nous faire descendre pour vous donner un réconfort illusoire.
En effet, Jean-Charles Gibault, on entend bien que ce n'est pas évident. Finalement, ce n'est pas parce qu'on est dans les airs que tout est permis et on est aussi une cible facile, quoi.
Bien sûr. Alors, les aviateurs vont... ça va être une guerre de spécialistes. On avait parlé tout à l'heure des chevaux et de nombreux cavaliers qui vont abandonner les chevaux et qui vont se mettre à devenir de fameux pilotes. Et notamment, c'est une guerre de spécialistes. Les chevaliers du ciel vont s'affronter. Alors, la propagande raffole de ces combats aériens. On va évidemment exacerber le nationalisme puisque chacun va lutter contre l'as adverse. Alors, pour être un as, d'ailleurs, comment il faut peut-être expliquer comment on devient un as. Ben, c'est très simple, il faut déjà comptabiliser 5 victoires homologuées, c'est-à-dire qu'il faut au moins 2 témoins visuels qui peuvent attester de cette victoire. Donc, ce qui va aussi, on le verra tout à l'heure, sur certains chiffres, provoquer un petit peu la colère de certains pilotes qui vont revendiquer davantage de victoires qu'ils ne possèdent en réalité.
Mais alors, ce sont des êtres extrêmement jeunes qui n'ont pas froid aux yeux, intrépides. Effectivement, les femmes en sont folles. C'est aussi une image d'un combattant. C'est absolument... Moi, je trouve ça magique, tout de même.
Oui, alors ils vont faire la une, évidemment, des outils de propagande, des journaux, de nombreuses photographies. Alors, parmi ces as, certains sortent véritablement du lot. Je pense évidemment à Guynemer, qui est le symbole des as de la Première Guerre mondiale, très jeune. Alors, il fait partie aussi, par son parcours, d'un personnage totalement particulier. Il va être recalé de l'armée de terre, on le juge trop fragile, il va s'accrocher, il va vouloir absolument combattre, et il va faire sa place dans le milieu des airs avec son rôle de pilote. Il va intégrer et commander la fameuse escadrille des cigognes, qui d'ailleurs reprend l'imagerie animalière pour évidemment faire référence à l'Alsace-Lorraine qui est en possession des Allemands à ce moment-là. Et donc Guynemer, c'est l'archétype du combattant courageux avec du panache, le chevalier du ciel par excellence. Et il va être fauché très jeune puisqu'il a 22 ans au moment de sa mort, le 11 septembre 1917. Ça va être un choc hein, parmi les combattants. Les honneurs vont lui être rendus, même par l'adversaire. Il a vraiment un respect incroyable pour ses 54 victoires homologuées. Donc, il est très longtemps le recordman. Et évidemment, un autre as va lui succéder au palmarès, puisqu'il s'agit de René Fonck, l'as des as français, avec un nombre de victoires de 75 homologuées. C'est lui le plus important. Alors, il revendique 52 victoires supplémentaires qui ne sont pas homologuées, malheureusement pour lui. Et René Fonck, lui, c'est le calculateur, c'est le tueur froid. Lui, il est là pour vaincre et c'est peut-être ce qui va faire que dans la mémoire collective, il n'aura pas la même place que Guynemer. Il est pourtant l'as des as, mais le comportement au sol, le comportement aussi au combat joue autant presque que les victoires. Guynemer, c'est un chevalier qui a du panache, c'est quelqu'un qui se bat véritablement avec courage. René Fonck aussi, mais ce n'est pas lui qui va marquer les esprits. D'ailleurs, je pense que vous allez nous faire entendre aussi une nouvelle archive.
Tout à fait, Jean-Charles. D'ailleurs, l'archive sonore que nous allons entendre montre la différence entre ces deux personnalités, ces deux styles de combattants, Guynemer et Fonck. C'est un témoignage, c'est Louis de Diesbach qui, effectivement, explique la distinction entre ces deux as. Écoutons cette archive.
Si on veut faire un parallèle entre les deux, à mon sens, moi je trouverais à dire qu'au début, c'est-à-dire en 15, 16 et même en 17, les avions étaient relativement rares dans le ciel. Ce qui fait que quand il n'y avait pas des quantités comme en fin de 17 et surtout en 18. Donc quand on avait la chance d'en trouver un, on tâchait de le descendre, on s'accrochait à lui quoi qu'il arrive. C'est le cas de Guynemer. Il arrivait, lui, que l'Allemand tire sur lui ou pas, il arrivait dessus et à 10 mètres, il lâchait sa rafale de mitrailleuse. Tandis que Fonck, qui a été un peu plus tard, a eu la chance d'avoir beaucoup plus d'avions devant lui. Il avait un coup d'œil extraordinaire et c'est une exception, je crois que c'est la seule exception dans l'aviation du monde. Il n'a reçu dans toute sa vie qu'une seule balle dans son avion. Ce qui n'est pas le cas ni de Guynemer, ni de Galland, du côté allemand, du général Galland, ni d'autres. C'est l'exception.
Voilà Jean-Charles, une archive qui corrobore ce que vous nous avez expliqué juste auparavant. Alors, d'autres informations à glisser encore sur les as. Alors Jean-Charles, finalement, quand on cherche un peu sur Internet, on rencontre des gens qu'on va retrouver aux côtés d'Hitler. Je pense à Hermann Göring, par exemple.
Bien sûr, bien sûr.
Qui était déjà aviateur et combattant durant la Première Guerre mondiale.
Oui, alors pour terminer avec René Fonck, d'ailleurs ça va dans la même thématique, et ce qui va un petit peu ternir son image, c'est aussi son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est très proche de Vichy et du maréchal Pétain. C'est d'ailleurs par l'intermédiaire de René Fonck et d'Hermann Göring que notamment certaines rencontres seront mises en place entre les hauts dignitaires nazis et les hommes du maréchal Pétain. Donc effectivement, Göring est un grand aviateur de la Première Guerre mondiale, que l'on retrouvera, bien entendu, pendant le deuxième conflit mondial.
Alors, ces jeunes hommes deviennent des héros. On l'a dit, ils prennent des risques absolument inconsidérés, parfois. D'autres noms qu'on pourrait citer,
oui,
parce
alors,
qu'il y en a énormément.
Voilà, ils sont très nombreux, les As, hein, vous avez raison, Yannick. Alors, l'As des As, on ne peut pas faire une émission sans le citer, ce n'est pas possible. C'est Manfred von Richthofen.
Alors là, du côté allemand.
Voilà, du côté allemand, surnommé le Baron Rouge. C'est évidemment un aristocrate qui, au début de la guerre, fait partie des cavaliers. Hein, il fait partie de la cavalerie impériale. Et il va s'engager dans l'aviation, ainsi que son frère et son cousin. Donc, c'est une famille véritablement d'aviateurs. Et lui, il revendique 80 victoires homologuées. Donc, c'est le record. Hein, c'est l'As des As de la Première Guerre mondiale. Et il va devenir une cible, il va volontairement d'ailleurs, puisqu'il va faire peindre en rouge son Fokker triplan qui est très reconnaissable. Il vole en escadrille donc, et il va être une cible pour tout le monde, parce qu'évidemment quand on est le numéro 1, tout le monde veut vous abattre encore plus. Et il sera abattu en 1918.
Il est mort d'une balle dans la poitrine. Et
voilà, oui, on va.
Il paraît qu'il a été enterré par les Britanniques.
Oui, avec les honneurs militaires d'ailleurs, mais il va... Malheureusement pour lui, être victime un petit peu de son... Il va avoir le syndrome aussi un petit peu de la grosse tête, hein, parce qu'il se considère presque comme invincible, et il va faire quelque chose que lui-même avait demandé à ses hommes de ne pas faire, c'est-à-dire sortir de l'escadrille. Il va sortir un petit peu seul au combat, il va être abattu, et donc son corps sera rendu par la France quelques années plus tard à l'Allemagne, et il va avoir les honneurs militaires. Ça montre aussi, d'une certaine manière, leur respect, comme tout à l'heure pour Guynemer, hein, même de l'adversaire. Les As se reconnaissent entre eux et se rendent hommage entre eux aussi.
En tout cas, c'est grisant, hein, de conduire des avions qui ne sont pas encore hyper perfectionnés. Enfin, il y a un perfectionnement qui viendra peut-être dans les années 17-18, parce que c'est...
Oui, c'est là où on utilise d'ailleurs, ils sont construits en série, ils commencent à être construits en série, et on va évidemment perfectionner, alors notamment le fameux Fokker triplan de Richthofen, qui est vraiment un avion le plus moderne pour l'époque et qui va lui permettre de remporter toutes ses victoires. Je précise d'ailleurs que le haut commandement allemand va essayer de freiner Richthofen, parce qu'il est très important pour la propagande. Et sa mort est une catastrophe. On est au printemps 18, au moment où l'Allemagne va relancer sa dernière grande offensive pour essayer de l'emporter. Donc on essaie de le freiner, mais ils sont tellement grisés par l'aviation, par les combats aériens, que les pilotes refusent de rester au sol. Lui, il va prendre tous les risques malgré tout. Et donc c'est un coup dur pour l'armée allemande. Mais d'ailleurs, Göring, qui fait partie de la même escadrille que lui, rendra hommage après à ce personnage qui symbolise évidemment la bravoure, le courage, autant que les poilus finalement, et les combattants à terre, les combattants du ciel sont aussi très courageux et représentent des héros de cette Première Guerre mondiale.
Alors il y a aussi un autre as très connu, c'est Roland Garros.
Roland Garros, oui, bien sûr,
Guerre mondiale.
Effectivement,
c'était un des premiers as, je crois même.
Oui, c'est grâce à lui, notamment aussi, qu'on va mettre en place la mitrailleuse sur les avions. Donc, il a un rôle prépondérant. On pense aussi à Ningesser, qui va être l'un des as importants, qui va être connu pour d'autres raisons, puisqu'il va avec Colly faire disparaître son avion aussi lors de la traversée de l'Atlantique, mais. Voilà, ils sont très très nombreux et c'est vrai que les as sont très nombreux. Je pense aussi à un as italien qui est assez connu, c'est Francesco Baracca, qui lui va avoir un rôle un petit peu différent puisqu'il va être abattu en 1918, mais sur son avion, il avait un emblème, c'était un cheval noir cabré qui va permettre à Enzo Ferrari un peu plus tard de reprendre. C'est un héros en Italie, donc Enzo Ferrari reprendre ce symbole pour ses automobiles de course.
Et puis, je voudrais juste mentionner le nom d'Eugène Bullard, qui fut le premier pilote de chasse de couleur de l'histoire. Voilà une information que j'ai trouvée. Jean-Charles, on est pratiquement au terme de notre émission. Bien évidemment, on peut renvoyer aussi nos auditrices et auditeurs à des ouvrages spécialisés. Que recommandez-vous, Jean-Charles, vos coups de cœur, les livres qui vous ont formé et qui vous donne ce si grand talent qui nous réjouit à chaque fois que vous êtes devant notre micro. Merci. Alors sur la Grande Guerre.
Alors sur la Grande Guerre, pour les amateurs d'histoire, évidemment, la Bible, c'est l'encyclopédie de la Grande Guerre de Jean-Jacques Becker et de Stéphane Audouard Rousseau. Encyclopédie de la Grande Guerre 14-18. Donc là, on a tout. Hein. C'est véritablement tous les renseignements sur ces 4 années de guerre. Ça, c'est pour les amateurs d'histoire. Pour les amateurs de romans historiques, peut-être. Alors, un roman qui m'a beaucoup plu, c'est Le soldat inconnu vivant de Jean-Yves Le Naour, qui retrace l'épisode d'un soldat qui a perdu tous ses documents d'identité et surtout qui a perdu la mémoire. Et ce qui est incroyable, c'est de voir l'engouement que suscite ce personnage. On essaie de retrouver sa famille et on se découvre surtout des familles en détresse qui vont essayer de s'accaparer cette personne comme étant leur fils, leur frère. Donc c'est très, très touchant, très poignant sur justement ce que subissent les familles de la perte d'un membre éminent de la famille.
Et puis Jean-Charles, le scénariste de bande dessinée historique, la bande dessinée, a forcément des coups de cœur BD.
Évidemment, j'étais obligé, je ne peux pas passer à côté, hein, Yannick, vous me connaissez.
Bien sûr.
Et pour rejoindre la thématique du jour, il y a une bande dessinée sur Ningesser qui retrace son parcours, notamment pendant la Grande Guerre. Chez Casterman de Blanchard, hein. C'est une très très belle bande dessinée, très complète et un graphisme très intéressant. Et je terminerai par une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée en 4 tomes, c'est Notre Mère la guerre, qui retrace une enquête policière au cœur des tranchées. Donc c'est un lieu particulier pour une enquête policière, mais c'est très très intéressant et ça donne une vision un petit peu particulière aussi, un petit peu originale comme on essaie de le faire aujourd'hui de cette grande guerre.
Merci pour toutes ces références qu'on retrouve, si on n'a pas eu le temps de les noter, sur le podcast de l'émission via yannickpetit.fr. Et pour clore le chapitre autour de l'aviation de la Grande Guerre, Jean-Charles, on va écouter une dernière archive sonore. C'est Joseph Battle qui explique combien la Sainte Vierge pouvait être considérée comme importante et intervenir dans le moral et la protection des aviateurs. Joseph Battle.
On nous lâchait sur un blériot. Mais attention, jamais, avant d'avoir prononcé, avec dévotion la prière à la Vierge, qui était la suivante. Hein? Bonne Sainte Vierge, priez pour les aviateurs qui sont à terre, quant à ceux qui sont en l'air, ce sont des fous, qu'ils se démerdent. Voilà, voilà. C'était obligatoire, à genoux.
Une archive que je souhaitais absolument partager avec vous qui nous avez écoutés en cette fin de matinée sur Radion. Cher Jean-Charles Gibault, une fois de plus, un grand merci pour votre apport, votre disponibilité, votre érudition et l'enthousiasme qui est le vôtre devant un micro. Pardon. Je pense, Jean-Charles, que Radion serait très heureuse d'avoir une émission exclusivement consacré à l'histoire. L'idée est lancée.
Le message est passé, peut-être.
Et bon, travailler au scénario d'une bande dessinée sur l'histoire du maquis Camille dans le Morvan, avec Ilker Cadiscan, l'illustrateur, plus les cours, ça devient difficile de dégager du temps libre, tout de même.
Le temps ne manque pas, mais c'est vrai que nous sommes très occupés. Mais c'est toujours un plaisir de répondre présent à vos invitations. Et donc, peut-être à l'année prochaine pour une autre émission sur la Grande Guerre.
En tout cas, cher Jean-Charles, un grand merci, très chaleureux. C'est un plaisir de vous avoir devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Très bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. À vous aussi, Jean-Charles. Bonne reprise des cours très prochainement.
Oui,
la semaine
prochaine.
Lundi. Et puis nous reprenons, nous aussi, les cours. Wagon Livre revient samedi prochain, 13 novembre. Nous vous proposerons des entretiens enregistrés lors du salon de Noisy-le-Roi, c'était dans les Yvelines. Vous entendrez Mathieu Boccoté, Étienne de Montetti et Sophie Loubière. C'est au programme du Wagon Livre de samedi prochain. Merci de votre écoute. Merci Jean-Charles.
Au revoir. Merci beaucoup.
Et à la semaine prochaine.